Philippiens 2:13 dit que Dieu travaille en nous pour nous rendre capables de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. Troy a mis un verset d'une version un peu différente. Car c'est Dieu qui opère en vous, le vouloir et le faire pour son bon plaisir. Et qu'est-ce que Dieu désire dans cette question de nations et de personnes venant au salut? Très simplement, la Bible nous dit que Dieu désire que personne ne périsse, n'est-ce pas? Mais que tous viennent à la repentance. Comme le dit Jean 3:17, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour qu'il sauve le monde. Nous aussi, en tant que ses enfants, nous désirons qu'aucun ne périsse, mais que tous viennent à la repentance. Donc, nous prions selon la volonté et le désir de Dieu, car ses désirs sont les nôtres. Deuxièmement, nous prions pour les nations parce que nous voulons voir Christ recevoir l'héritage complet pour le prix qu'il a payé sur la croix. Dans Ésaïe 49, verset 6, nous lisons que Dieu a déclaré ceci. « C'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour amener les restes d'Israël. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » Et Dieu l'a souverainement élevé, Jésus, et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, comme nous le dit Philippiens 2:9-10. Dans Apocalypse, chapitre 7, nous voyons cette grande scène étonnante autour du trône de l'agneau. Le verset 9 nous dit ceci. « Après cela, je vis une grande foule de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmier à la main. Et ils criaient d'une voix forte, « Amen, la bénédiction, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu à tout jamais. Amen. » Cette scène est peut-être l'une de mes plus grandes motivations pour prier pour les nations. Je m'arrête et j'imagine cette grande scène et je suis émerveillée par la gloire de Jésus-Christ. Nous lisons toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues sont là. Ils louent, ils adorent, ils rendent gloire à Jésus-Christ pour le salut qu'il a acheté avec son sang et sa souffrance. Et pour avoir vaincu le péché et la mort par sa résurrection. C'est pourquoi nous prions pour les nations, parce que nous voulons voir cette grande scène se réaliser un jour où Jésus va recevoir l'héritage complet pour son sacrifice. Enfin, nous prions pour les nations parce que Dieu a fait de nous ses partenaires. Je ne peux pas expliquer ce mystère, mais depuis que Dieu a créer le monde, c'est comme ça. Voici ce que nous dit la Bible. Depuis le moment où Dieu a donné la terre à Adam et Ève et a confié à l'humanité le soin et la garde de ce monde, il a toujours choisi de travailler avec nous et non pas seul. En outre, le Nouveau Testament nous rappelle à plusieurs reprises que nous sommes des partenaires de l'Évangile, des compagnons de travail avec le Christ et que ceux qui sont envoyés, des missionnaires et les apôtres. Et l'une des principales façons dont nous nous associons est la prière, en accord avec la volonté de Dieu pour les nations, afin que nos prières soient utilisées pour amener le salut de plusieurs. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une bataille spirituelle, et le salut des nations et de chaque individu qui compose ces nations est contesté par l'ennemi de nos âmes. Le ministère de Christ, le ministère des apôtres, les missionnaires plus versés du Nouveau Testament soulignent cette réalité. Nous ne luttons pas contre la chair, le sang, mais contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans le royaume céleste. Nos prières font la différence dans cette bataille. Cela fait partie de notre devoir Et cela démontre notre amour et notre obéissance pour Dieu. Connaissez-vous l'histoire de James Fraser, appelé comme missionnaire au peuple Lisu de la Chine occidentale au début des années 1900? Après 6 années totalement infructueuses, James Fraser a réalisé quelque chose, la nécessité de la prière de la foi. Il a commencé à bâtir un soutien de prière pour la bataille spirituelle qui se déroulait pour les âmes de ce peuple. Il a rassemblé une équipe puissante de soutien de prière. Il leur a écrit ceci: « Je ne vous demande pas seulement d'apporter votre aide dans la prière, comme une sorte d'à côté, mais j'essaie de vous confier la responsabilité principale de cette guerre spirituelle. Je veux que vous preniez le fardeau de ces gens sur vos épaules. Je veux que vous luttiez avec Dieu pour eux. » Ce groupe a relevé le défi et une percée s'est produite. Quelques mois après que James Fraser a écrit ces mots, les vannes se sont ouvertes et 129 familles sont venues à Christ, représentant environ 600 Lisu dans l'espace de juste quelques mois. Et ce groupe ethnique continue aujourd'hui d'avoir une église forte, dynamique, qui se reproduit parmi eux. Il y a littéralement des milliers d'autres histoires comme celle-ci, racontées par des missionnaires du monde entier, peut-être pas aussi célèbres, mais tout aussi convaincantes quant à l'importance d'un partenariat dans la prière avec Dieu et ceux qui sont envoyés, pour voir les nations répondre par la repentance et la foi au message de l'Évangile. Amen. Il fait chaud, n'est-ce pas? Donc, si nous savons pourquoi prier, comment prier alors? Vous pouvez trouver toutes sortes de guides sur l'Internet, mais permettez-moi de souligner quelques façons, 4 aujourd'hui, important pour prier, comment prier pour les nations. Premièrement, nous prions pour une proclamation audacieuse de l'Évangile. Paul dit à l'église d'Éphèse, « Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Je suis la porte-parole de la bonne nouvelle, et pour elle je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage comme je dois le faire. » Les missionnaires, les chrétiens engagés du monde entier se font encore l'écho de ces paroles de Paul près de 2000 ans plus tard. « Priez pour moi afin que je puisse proclamer l'Évangile avec du courage, avec l'audace. » Deuxièmement, priez pour que l'Évangile ne soit pas prêché seulement par des mots, mais aussi par des puissantes démonstrations du royaume, par des prodiges, des miracles, des expressions tangibles de l'amour de Dieu à des individus et des communautés entières. Une fois encore, Paul s'adresse à une autre église, les Corinthiens cette fois-ci. « Moi-même devant vous, j'ai été faible, j'avais peur, je tremblais. » Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine, mais c'est la puissance de l'Esprit Saint qui apparaissait clairement. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. La démonstration de la puissance de l'Esprit est tout aussi importante que la proclamation audacieuse de l'Évangile, afin que la foi s'appuie sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse humaine. Mes parents ont travaillé parmi les peuples baolés de Côte d'Ivoire dans les années 1970. Beaucoup de travail avait été fait au sein de ce peuple, mais il y avait encore un besoin de percée spirituelle pour voir l'église de ce peuple décoller. Je me souviens alors que j'étais une jeune fille à peu près 5-6 ans, qu'un évangéliste est venu en Côte d'Ivoire et que grâce aux nombreux ralliements qui ont été organisés, De nombreux Baulis ont été guéris physiquement et libérés de l'oppression démoniaque. Des milliers de personnes sont littéralement venues à Christ en très peu de temps, grâce à cette puissante démonstration du royaume, et a contribué ainsi à faire grandir l'Église de Baulis pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui, une Église qui envoie des missionnaires et continue de bénir d'autres nations. Et nous avons bénéficié en recevant Jean Cras, il y a juste 2 mois maintenant chez nous. Priez aussi, troisième raison, priez aussi pour l'Église persécutée. Les croyants sont les plus persécutés dans les nations, les groupes ethniques, qui ne sont pas atteintes de l'Évangile. Ces endroits, ces groupes de personnes où très, très peu sont chrétiens, ou même que la vaste majorité n'ont même pas entendu parler de Jésus d'une manière significative. L'Église persécutée se trouve en grande partie dans la fenêtre 10-40, cette section de latitude et longitude où réside le plus grand nombre de groupes de personnes non atteintes de l'Évangile, les hindous, bouddhistes, musulmans. Ce sont quelques-unes des régions les plus difficiles à atteindre avec l'Évangile et nous pourrons pénétrer ces gens avec l'Évangile que par la prière. Et cela signifie aussi prier pour l'Église persécutée, qu'elle soit victorieuse, qu'elle rende témoignage à Dieu et même qu'elle accepte de donner sa vie, mourir si nécessaire. Ce n'est pas une prière facile à prier. Quand je prie ceci, je suis très conscient du fait que je vis dans un pays où je ne suis pas persécutée. Mais quand même, Dieu nous appelle à les soutenir, à prier pour eux, même s'ils ont besoin de mourir. Et quatrièmement, vous pouvez prier que l'Évangile s'enracine jusqu'aux 3e, 4e générations. Oui, par les familles qui ont des enfants, mais aussi qu'un chrétien forme un autre disciple et ce disciple forme un autre et un autre et un autre. Et comme ça, la croissance va être pas linéaire, mais expansionnelle de l'Évangile, que ça va croître très vite dans un pays. Donc voilà quatre façons de prier. Prier pour une proclamation audacieuse, prier pour des démonstrations tangibles de la puissance de Dieu, prier pour l'Église persécutée et prier que l'Évangile s'enracine jusqu'aux 3e et même la 4e génération. Donc voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Okay? Au lieu d'avoir des groupes de discussion ce matin, nous allons avoir des groupes de prière. Dans une minute, je vais vous inviter de se tourner, trouver dans des groupes de 3 à 4 personnes, même 5 si nécessaire. Je vais vous donner des informations sur des groupes non atteints de l'Évangile parmi lesquels l'Alliance travaille, où on a des équipes sur le terrain pour évangéliser, pour implanter des églises, pour prendre soin des gens. Je vais vous donner des informations sur 3 régions. Et ce qui est intéressant, ces 3 régions... ont bénéficié de nos dons pour l'offrande Jaffrey. Donc, si vous avez donné à l'offrande Jaffrey, normalement, on fait ça à l'automne. Voilà un petit compte-rendu de ce qui se passe avec votre argent, dans un sens. OK? Donc, je vais vous donner l'information sur une région. Par la suite, nous allons prier pour ce groupe et le groupe de louanges. À la fin, on va vous donner 3 à 4 minutes. Et à la fin, vous allez entendre peut-être Myriam sur le clavier ou toute l'équipe, je ne sais pas, ce qu'elle veut faire. Et quand vous entendez la musique, vous arrêtez de prier. Puis on va passer par la suite au prochain groupe. Je vais vous donner l'information et vous allez prier selon la façon que je vous ai expliqué ce matin. Et puis, le groupe de louanges, on va faire ça 3 fois. Et à la fin, je vais vous donner un petit défi et on va terminer avec ça. Donc, voilà, se trouver dans des petits groupes de 3 à 5 personnes. Maintenant, vous pouvez se tourner tout de suite pour se préparer. Et puis, je vais vous donner l'information après, OK?